Ada est avec nous et elle aimerait vous poser des questions, chers amis. Ada, bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien?
Très bien.
Je ne reviens pas. Oui, je suis un peu intimidée. Alors moi, figurez-vous, bon, moi j'ai un niveau quatrième, hein, je me suis arrêtée, bon, et j'ai 61 ans aujourd'hui, il y a 20 ans en arrière, j'ai pu faire un crédit, j'ai vécu en foyer sans contrat, et depuis 30 ans, je ne gagne que 800 euros. Mais en ayant vécu au foyer sans contrat, j'ai pu mettre de côté, puis vous voyez, il y a un T2 de 58 mètres carrés en 2001, et ben, je suis dans la région Rhône-Alpes, ne valait presque rien. J'ai fait un crédit social, avec à l'intérieur, je percevais la PL, que M. Macron, maintenant, a enlevé ce crédit social. Voilà, bon, bref. Et alors, et puis, du coup, je me suis mis, à cause de cet appart que j'ai réussi à acquérir quand même à l'âge de 40 ans, voilà. Et je me rends compte qu'en fin de compte, l'argent, pendant le Covid, vous voyez, je voyais les Américains là, qui avaient des salaires de 70 000 euros annuels, hein. Et ils allaient, et ben, le train, il leur donnait quand même, à ces gens-là, il leur donnait, quelque chose, quoi, pour pas qu'ils crèvent de faim pendant le confinement. Et moi, avec mes 780 euros par mois, ben, j'ai rien quémandé, j'ai manqué de rien, entre guillemets, parce que je vis seule, voilà.
Thomas,
et puis
est-ce
la
qu'on...
dernière question
oui,
que je voudrais vous demander,
vous
s'il vous plaît, c'est que vous voyez en ce moment au Liban, eh ben, c'est la banqueroute, leurs banques sont fermées, ils crèvent la dalle. J'entendais une infirmière qui gagnait donc 700 euros, elle disait que à cause de l'inflation, quoi. Ou leur déflation plutôt de leur monnaie, elle ne gagnait à peine 80 euros et qu'elle crevait la dalle.
Oui, merci, Ada, merci. Vous posez deux questions très intéressantes et je vais les reformuler un petit peu parce que c'est vrai qu'elles m'intéressent, ces deux questions. La première question, mon cher Thomas, que je voudrais vous poser, est-ce qu'un Français aujourd'hui peut vivre avec 780 euros par mois? Et la deuxième question, est-ce qu'au Liban, effectivement, les banques ont, on va dire les choses en appelant un chat, ont volé l'argent de ceux qui avaient placé leurs biens dedans, ou est-ce qu'ils ont une chance libanais de récupérer cet argent? Je sais comment les Libanais vivent la situation, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement au Liban? C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne peuvent plus tirer.
Oui, bien sûr.
Mais est-ce que les banques ont le droit, la question est peut-être naïve, mais elle est frontale, ont le droit de faire ça? Donc, première question, est-ce qu'un Français peut vivre avec 800 euros aujourd'hui? Et deuxième, qu'est-ce qui s'est passé avec les banques au Liban? Alors, est-ce que ça peut arriver en France? En fait, c'est ça aussi la question.
800 euros, on est en dessous du seuil de pauvreté, donc c'est une vie qui est, enfin là, la dame
depuis 30 ans,
c'est exemplaire ce qu'elle a fait, c'est impressionnant, mais c'est une vie qui est très dure, qui est très très dure. On est dans l'ordre de la survie, je pense, là. On est en dessous du seuil de pauvreté.
Vous pouvez nous rappeler où est le seuil de pauvreté en France?
Oui, c'est 80% du SMIC, donc c'est autour de 900 000 euros, quoi, à peu près, net par mois. Donc là, elle est en dessous. Donc je sais pas comment. Après, il faut voir s'il y avait le revenu de son mari ou quelque chose d'autre comme ça. Mais là, c'est très dur.
C'est très dur. Et sur la crise au Liban, alors?
Sur la crise au Liban, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, les gens ont dit il y a une épargne. Ils n'arrivaient plus à avoir de l'argent ailleurs. Donc ils ont saisi finalement cette épargne. Est-ce que ça peut arriver? Alors ça arrive souvent dans les pays très pauvres, ça, qui n'arrivent plus à trouver des financements pour continuer leur activité.
Donc ils volent en fait les particuliers.
Bah, ils prennent l'épargne, ouais. Et à un moment, dans des pays européens, on s'est dit, il y a eu cette question-là qui s'est posée en France, on s'est dit jusqu'à combien on garantit un compte? Ils avaient dit c'était à peu près 100 000 euros, hein, me semble-t-il, hein, de mémoire. Donc ils disaient jusqu'à 100 000 euros, l'État garantit. Après, si on a au-dessus, l'État garantit plus. Mais chez nous, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, pourquoi? Parce que la France, on a une très belle signature et qu'on peut constamment...
On est AAA, comme vous dites au début.
Voilà, c'est ça. Et puis on peut s'endetter encore. Enfin, il y a très peu de pays qui peuvent s'endetter dans le monde. On les compte
on
sur les doigts
partie,
d'une main.
Ouais.
On en fait partie. On fait partie de ce club-là. Alors certes, l'Allemagne a des meilleurs taux que nous, etc. Mais je veux dire, tout le monde ne va pas aller en Allemagne. Ceux qui ont beaucoup d'épargne, ils savent qu'il faut se diversifier. Ils ne sont pas bêtes. Et quand ils se diversifient, il n'y a pas beaucoup de pays. Il y a les États-Unis, il y a le Japon, il y a quelques des pays européens. Des grands pays, on n'a pas beaucoup. Donc nous, on a cette chance de pouvoir nous endetter. On a un système financier qui est plus à notre service, même si on lui a donné beaucoup trop de pouvoir, mais qui est plus à notre service globalement que dans beaucoup de pays dans le monde.
Pour combien de temps encore?
Ah, ça, c'est très difficile. Enfin, moi, c'est très... Non, je pense pas... Enfin, demain, imaginez-vous quand même, si la France chute, ce qui se passe. C'est la zone euro entière qui chute. Si la zone euro entière qui chute, ça va être dur parce que les deux plus grosses zones où il y a les plus grandes richesses dans le monde, c'est où ? C'est les États-Unis et l'Europe. La zone euro est même
donc
plus riche que les États-Unis.
Donc vous ne voyez donc pas une baisse de notre niveau de signature d'ici 10 ans ?
On a déjà eu des problèmes il y a 10 ans. Le AAA.
Ouais, mais ça devait être la fin du monde.
Il a eu un coup dans l'aile, le AAA.
Ouais, ça devait être la fin du monde, rien ne s'est passé. Les taux ont continué à baisser. Alors là, c'est, quand on regarde les 10 dernières années, c'est vrai qu'on a le coût de l'endettement qui a diminué. Ça a vraiment baissé. Rien à voir avec les années 90, où c'était beaucoup plus haut. Et là, ça remonte légèrement.
C'est vrai, grâce à la BCE, ça aussi, parce qu'elle a lancé un programme non conventionnel de rachat de titres.
Oui, tout à fait. C'est grâce à la BCE qui n'avait pas ce fonctionnement au départ. D'ailleurs, les économistes atterrés avaient demandé de faire ça. Et puis finalement, ils ont commencé à le faire et ça a rassuré tout le monde. Ils ont racheté les dettes en fait, de tout le monde et ça a rassuré tout le monde. Mais on a quand même nos taux qui, même s'ils remontent là, qui restent quand même largement en dessous de ce qu'on a vécu dans les années 80-90. À l'époque, on vivait justement ce qu'a dit le monsieur, la désinflation compétitive.
François, qui est toujours avec
voilà,
nous.
Voilà, qui était une politique libérale, quand même, désinflation compétitive. Et bien là, les taux ont augmenté. Et quand les taux ont augmenté, tout le monde a dit c'est pas grave, parce que c'est un passage obligé. Vous voyez, donc c'est comme c'était une politique plutôt libérale, on dit c'est un passage obligé, c'est pas grave. Là, on a les taux qui augmentent un petit peu, tout le monde s'affole. Moi, je dis faut observer, mais il ne faut pas non plus agiter la dette comme un épouvantail. Il y a vraiment un truc qu'il faut...
Justement, Thomas, terminé, j'ai une question à vous poser.
Moi, je me souviens, en 2018, on a fait des économies, par exemple sur l'hôpital. 1 milliard en tendance.
On paye très très cher.
Voilà. Et Macron l'avait dit. Il avait dit à une aide-soignante à Rouen, il n'y a pas d'argent magique. Il y a la dette, le déficit. Il lui a dit, mot pour mot, il lui a dit ça, avant la crise du Covid.
Quelle ironie.
Voilà, quelle ironie. Entre 2007 et 2018.
Non mais double ironie Thomas, parce que d'abord l'hôpital, on a vu ce que ça donnait, et double ironie parce que l'argent magique finalement il a existé.
Finalement il existait. Et peut-être si on l'avait mis avant, on aurait eu moins de morts et moins
évidemment,
besoin de le mettre après.
C'est ce que vous dites aussi dans le livre.
Ça c'est important de le dire. Mais quand il a dit ça, on regarde entre 2007 et 2018, donc à peu près une dizaine d'années, notre dette a augmenté moins vite que les États-Unis, que le Royaume-Uni et que le Japon. Et donc ça, on maîtrisait, même si notre dette était au-dessus de celle du Royaume-Uni, mais elle augmentait moins vite en 10 ans que ces trois pays-là. Donc ça veut dire qu'on avait un meilleur contrôle de notre dette que ces pays-là. Et pourtant, on faisait des coupes, notamment dans l'hôpital, au nom de la dette.
Alors justement, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont envie de vous poser des questions sur la dette. Parce que la dette, les gens l'agitent comme un spectre, souvent pour se faire peur eux-mêmes. Mais en fait, dans votre dictionnaire, vous relativisez cette trouille de la dette. Vous dites que ce n'est pas la peine. Vous pouvez nous expliquer avec autant de clarté que dans votre livre pourquoi la dette en soi ne signifie rien et qu'il faut toujours la relativiser ?
Alors, ça dépend des pays. Parce qu'il y a des petits pays, parfois, comme des pays africains, qui ont une dette mais de quelques dizaines de milliards et qui sont proches de la faillite. Voilà. Nous, on a une dette, et les États-Unis, on a des dettes énormes. On a plus de 2000 milliards de dettes, hein, bientôt 3000, je pense. Énormes, mais ça tient. Pourquoi ça tient ? Parce que déjà, en comptabilité, vous avez un passif, un actif. Vous avez la dette et puis vous avez votre patrimoine. Nous, notre patrimoine public couvre entièrement notre dette. C'est-à-dire les biens des administrations publiques, tout ce qu'on a en infrastructure publique, entreprise, etc., couvre notre dette. Alors les gens, ils rigolent toujours. Tu veux vendre la tour Eiffel ? Non, c'est pas ça. C'est que quand on s'endette, bah, les gens regardent le patrimoine qu'on a. La soutenabilité d'une dette dépend du patrimoine aussi que vous avez. Si vous avez beaucoup d'appartements, vous pouvez aller vous endetter à la banque, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez beaucoup d'appartements.
Et ça marche comme ça pour le pays, en fait.
Et ça marche aussi comme ça, ça marche comme ça pour le pays.
Est-ce qu'on fait entrer les entreprises publiques aussi dans ces actifs ?
Oui, bien sûr. Entreprises, biens publics.
Qu'est-ce qui rentre ? Tout rentre ? Enfin,
tout ce qui est public. Tout ce qui est public. Mais c'est important.
Ça veut dire que la France est très riche de ce point de vue.
Bien sûr, mais elle devient de moins en moins riche. Le patrimoine public chute parce qu'on a beaucoup privatisé d'entreprises. On voulait privatiser ADP, par exemple. C'est une valeur, ADP.
Donc,
notre patrimoine chute. Et justement, quand il y a des gens qui disent « on va laisser une dette à nos petits-enfants », en fait, on lui laisse une dette, mais aussi un patrimoine. On peut lui laisser une dette avec...
Je me fais à chaque fois l'avocat du diable pour que les auditeurs... J'incarne les auditeurs. Et puis parfois, c'est aussi parce que moi-même, j'ai envie de savoir. Mais pourquoi tout d'un coup, finalement, on va privatiser ADP, c'est contre-productif ? Puisque par rapport à la dette, ça voudra dire qu'on s'endettera plus tard.
Parce que dans une certaine logique économique, le privé gère mieux que le public. Le public doit se concentrer sur le minimum et laisser le privé faire. Et donc, on privatise, par exemple, autoroutes, ADP, des entreprises publiques comme GDF. On les vendait la Française des Jeux, des choses comme ça. C'est une logique. Mais en réalité, dans cette logique-là, aussi des libéraux, le patrimoine n'est jamais pris en compte. On prend en compte que la dette publique. Alors que
Nicolas me dit qu'on peut s'endetter aussi parce que le PIB de la France est très élevé.
Bien sûr. Quand on est une grande puissance, on peut s'endetter plus facilement. Comme quand on est très riche, on peut s'endetter plus facilement. On dit souvent que les banques ne prêtent qu'aux riches. La France est un pays riche, donc on prête plus facilement à la France qu'à d'autres pays.
il a aussi, vous avez aussi un passage, sur une entrée sur la balance commerciale.
Oui.
Où là, vous dites également que la balance commerciale en tant que telle, ça ne veut absolument rien dire. Ça dépend de ce qu'on importe, ce qu'on exporte, de la spécialisation de chaque pays. Vous
Tout
pouvez
à fait.
Là aussi nous expliquer avec autant de clarté.
En fait, la balance commerciale.
Parce que ça a été longtemps une obsession dans l'économie française.
Bien sûr.
Quand j'étais étudiant, on parlait que de ça, quoi. Le déficit de la balance commerciale, on se faisait peur avec ça.
Oui. Les États-Unis, premier pays, sont déficitaires. Ils ont un déficit commercial. Mais en fait, ce qui est important de voir, c'est quoi ? Imaginons que demain, les Français soient plus riches. Il y ait de la croissance. Eh ben, il est possible que ça augmente notre déficit commercial. C'est possible, parce qu'on va plus consommer, on va plus importer. Donc là, ce serait plutôt une bonne nouvelle, non ? L'économie
oui,
va bien, voilà.
Oui.
Et puis, il y a des pays parfois qui sont pauvres, des petits pays pétroliers, qui ne font que du pétrole, qui exportent que du pétrole, et qui importent un peu de biens, et qui, eux, sont en excédent commercial. Et là, est-ce que c'est un bon excédent ? Non, c'est des pays spécialisés qui ne vendent que du pétrole. C'est pas des pays...
Et qui n'avaient qu'à court terme.
Voilà. Et si demain, on fait, par exemple, comme l'Allemagne, on fait une modération salariale très forte, on baisse les salaires très fortement, ben on va moins importer de biens. Et donc
Attention,
là, on va
Thomas,
avoir un meilleur
les
excédent.
Les pays pétroliers, comme vous dites, sont des pays qui se sont beaucoup diversifiés et qui ont investi notamment dans les secteurs de communication.
Ça c'est le Qatar, les Émirats.
Mais je parle
des petits pays africains.
Vous pensiez peut-être au Venezuela, peut-être l'Iran, peut-être certains pays africains.
Non, je pensais plus à des petits pays comme le Congo, le Cameroun,
ouais.
Le Gabon.
Qui produisent moins de pétrole de toute façon.
Qui en produisent moins.
Voilà. Il y a l'Algérie, attention aussi.
Voilà, mais un pays comme le Congo, 97% de ses exportations, c'est du pétrole. Il ne
Exactement.
Fait que du pétrole. Donc là, il peut avoir parfois des excédents commerciaux. Et est-ce que c'est bien ? Je ne suis pas sûr. C'est un
Parce qu'il diversifie pas la
économie. Donc la balance commerciale, c'est un indicateur, mais ce n'est pas l'indicateur, l'alpha et l'oméga
Exactement.
Du fonctionnement de l'économie.
François, vous êtes toujours là ?
Oui, tout à fait.
Vous avez une question ultra rapide à poser avant le flash d'information, qui est dans une minute.
L'endettement public est renforcé aussi par l'endettement privé. Les dépenses, notamment à l'import, non maîtrisées. Donc, comment fait-on, puisqu'on a perdu l'outil de l'inflation et de la dévaluation, comment fait-on pour réguler ce genre de hiatus ?
Thomas.
La question, c'était
que... Vous pouvez la formuler. Ouais. Il est 23h59, donc peut-être qu'on va vous reprendre, François, après le flash d'information. D'accord ? Ça vous dérange pas ?
Pas de problème. Ah non,
vous... Et je vous rappelle, donc, vous êtes sur antenne libre pendant encore une heure et que vous pouvez profiter de la présence de Thomas Porcher, d'Arash Dornbach et de Victor Dumiot pour nous interroger sur vos difficultés financières ou s'il y a des points d'économie qui vous semblent un peu obscurs. Profitez-en, c'est vraiment le moment, c'est très agréable de pouvoir avoir accès aux lumières de ceux qui savent. Comme disait Coluche, ça fait du bien d'être compris par des mecs qui comprennent des trucs qu'on ne comprend pas. Dans cette phrase. Vous pouvez toujours nous contacter au 739-21 par un SMS avec le mot en majuscule ou 39-21 50 centimes par minute, ce qui ne vous coûtera rien puisque nous vous rappelons, et également envoyer un mail à libreantenne@europe1.fr.